Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Coup de projecteur sur le combat de Pascaline Zamuta. Pascaline, qui a fait une escale de quelques heures dans les studios de la Radio des Nations Unies. Pascaline, la militante de l'Association des femmes des médias du Sud, qui vous. Pascaline, la journaliste activiste qui, avant d'arriver à New York à l'ONU, pour participer à un stage de formation pour jeunes journalistes professionnels, a recueilli les témoignages et doléances des femmes du Sud, qui vous, pour en faire part aux officiels de l'ONU. Pascaline, la partenaire des médias de la paix, Pascaline, qui a son mot à dire sur l'inertie de la communauté internationale à l'est de la RDC. Maa Feyek au micro, bonjour à tous. Pascaline Zamuta milite depuis plusieurs années contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays, et se sert par le biais de son association des médias locaux pour renforcer l'efficacité de la lutte contre les violences sexuelles. Je vous propose d'écouter cette jeune militante courageuse, passionnée et surtout pas comme les autres.
Au départ, en tant que femme journaliste, on est plus des femmes activistes aussi de la promotion du droit de la femme. Et on a eu des formations en bonne gouvernance, en genre, en démocratie. C'est ça notre thématique phare. Notre ligne éditoriale, c'est la promotion de la femme. Et nous voyons d'abord le problème de base de la femme, c'est que la femme n'a pas l'information sur la bonne gouvernance, sur les droits humains, sur la démocratie et sur ses droits elle-même. Alors, on a fait de ça notre thématique phare et on produit alors des émissions chaque fois. Moi, je suis chargée des émissions sur les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. On travaille aussi avec un autre groupe des femmes des clubs de cous qui bénéficient aussi de ces formations et qui bénéficient aussi d'une formation technique. Ils apprennent comment faire un reportage, comment manipuler un dictaphone. Alors, elles sont aussi à mesure d'aller faire une interview avec d'autres femmes à la base, là où peut-être nous, on n'a pas la chance d'accéder et nous envoie la cassette. On en fait encore une autre émission qui vient fraîchement de la base et cette émission est diffusée aussi dans les 19 radios.
Alors parlez-moi un peu d'une de vos émissions intéressantes. Je sais que vous travaillez en étroite coordination avec la CPI. Comment vous avez eu l'idée d'approcher la CPI et d'informer en fait les femmes sur la possibilité de faire une plainte au niveau de la CPI?
Oui, comme je vous ai dit, là, on est en contact direct avec les femmes, surtout les femmes victimes de violences sexuelles. Parce que quand la recrudescence des violences sexuelles fait que nous ne puissions pas nous passer des sujets sur la violence sexuelle, c'est notre sujet transversal. Parce que d'abord, les femmes, culturellement, sont victimes d'autres formes de violations de leurs droits. Avec la violence sexuelle qui est venue s'ajouter et qui est de trop maintenant par rapport à la situation de départ de la femme. Ce qui fait que les femmes des clubs d'écoute, quand elles sont au courant qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans ce sens, il y a des groupes de femmes qui ont été violées. Elles sont les premières à nous informer. Alors nous, tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est d'aller entrer en contact avec ces femmes-là victimes de violences sexuelles, enregistrer leurs témoignages, écouter leurs problèmes. Et leur problème, c'est la réparation. Leur problème, c'est la prise en charge. Mais on a remarqué que ces femmes-là étaient ignorantes sur un aspect, c'est la justice. Après, qu'est-ce qui va se passer? Et elles demandent qu'elles soient soignées. Elles demandent qu'elles aient une prise en charge économique, une réinsertion socio-économique. Mais quand vous leur demandez, maintenant, qu'est-ce que vous voudrez qu'on fasse à celui qui vous a violé? Vous voyez, vous êtes maintenant atteint du VIH-SIDA. Non, je demande seulement à Dieu de lui pardonner parce qu'il est très fort que moi. Je ne le connais pas. Il est venu dans la forêt. Je ne peux pas le reconnaître.
Pascaline, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas un peu lié aussi à la culture locale? Est-ce que vous pouvez demander à des femmes de la RDC qui vivent au sud Kivu, peut-être dans des endroits reculés, sinon dans la jungle, d'avoir la même conception des droits de l'homme que dans les sociétés occidentales? Est-ce que les femmes de RDC ont la même compréhension de ce que c'est que la violation de leurs droits? Et est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de demander à des gens qui vivent dans une culture d'adopter une compréhension des droits de l'homme qui viennent d'autres cultures?
Pas du tout, ça ne vient pas d'autres cultures. Parce que moi, je n'ai pas appris ça d'une autre culture. J'ai été à l'école, j'ai compris que j'avais droit à ça, je n'avais pas droit à ça. Telle était ma responsabilité et non. Mais ces femmes-là vivaient, comme tu l'as dit, et n'étaient informées de rien. Et ce n'est pas bien. Parce que le monde évolue et doivent à jamais maintenant se rendre compte de tout ce qui se passe. Parce que même ceux qui ont amené le conflit en ont profité de l'ignorance de la majorité, de la population qui est là. Les femmes sont majoritaires dans mon pays. Aujourd'hui, ne pas informer la femme sur ses droits, c'est condamner le pays à rester dans une situation pareille. Nous, on a l'intention de réveiller la femme parce qu'on a compris que la femme, de par la culture, elle était un peu à l'écart de ce qui s'est passé. Et c'est vraiment un sérieux problème. Mais ce que je dis ici par rapport aux violences sexuelles, comme je dis que c'est un élément de trop, et ça veut bien dans la culture que la femme ne peut pas parler. Même si elle est violée, elle a du mal à parler. Mais il faut que la femme sache qu'elle a le droit à parler, à s'exprimer. Si elle est, par exemple, infectée par le VIH/SIDA par ces viols-là, dès lors qu'elle ne parle pas, elle va infecter son mari, par exemple. Elle va infecter l'enfant, tout ça. Alors nous, on a vu que c'était bien d'aller en même temps en informant la femme, qu'elle soit elle-même en mesure d'abord découvrir qu'elle avait des droits et à savoir alors comment les défendre, bien que ce n'est pas aussi facile pour défendre ses droits dans un contexte pareil.
Est-ce que vous avez transmis des cas à la CPI?
Non, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pour cela qu'on se rapproche de plus en plus de la CPI aujourd'hui. On s'est vraiment attiré une sympathie. L'équipe de la CPI vient à l'Est 3 ou 4 fois l'année. Et nous sommes vraiment parmi les gens qu'ils doivent contacter. Et ils prennent même nos programmes qu'ils envoient à leur siège à la Haye. C'est tout ce que nous, on voulait d'abord un partenariat avec la CPI, que nous soyons parmi les personnes de contact de la CPI.
Mais ne pas, par exemple, aider un collectif de femmes à faire une plainte conjointe au niveau de la CPI, non?
Deux de nous sont partis jusqu'à la Haye pour échanger une fois, surtout par rapport à la thématique des violences sexuelles. D'ailleurs, ils se sont plaints parce que parmi les accusations, on n'a pas figuré les violences sexuelles comme un problème. Et là, ça a choqué deux de nous et nous autres parce qu'on a vu qu'on a donné l'importance à d'autres faits et on a ignoré les violences sexuelles. Et c'est là que nous avions voulu maintenant avoir un contact permanent avec la CPI pour essayer de leur fournir des informations sur les violences sexuelles au cas où il manquait quand même quelques informations. Mais heureusement, on a vu que la CPI s'intéresse aussi à la thématique. On a beaucoup de programmes qu'on a produits ensemble et on essaie même de les amener sur terrain, là où on travaille, pour les mettre en contact direct avec les victimes elles-mêmes.
Il fait quand on mougine, quand tu engueules en manyumba, quand tu longues en manyumba.
Aujourd'hui, Pascaline, vous êtes en plein New York. Vous avez été sélectionnée donc pour participer à ce stage qui va vous faire mieux connaître les Nations Unies. Quel a été votre sentiment le jour où vous avez franchi le perron des Nations Unies?
C'était une joie dès le départ de venir. C'est ma première fois aux États-Unis.
C'est ton premier voyage à l'étranger, en dehors de l'Afrique?
Oui, tout à fait.
C'est votre premier voyage.
Oui, donc je ne pouvais pas m'imaginer un monde que je ne connaissais pas avant. Mais au moins, j'avais une idée des Nations Unies par rapport au bureau. On travaille ensemble chez nous. Mais au moins, je me préparais déjà parce que je savais qu'au moins, je vais aller à la source. Parce qu'il y avait beaucoup de questions qu'on se posait en tant que journaliste dont on n'avait pas assez de réponses. Alors, je disais que c'est une occasion jamais pour moi d'avoir des réponses précises.
Les questions, c'est quoi, par exemple?
Souvent, ce sont des questions sécuritaires qui persiste au niveau de notre pays et qui ne...
Vous ne comprenez pas pourquoi? Au niveau de l'Est, ça ne va pas?
Oui, ça ne va pas, on ne comprend pas du tout. Et pour moi, c'était l'occasion de voir quelqu'un qui va m'expliquer concrètement quelle est la situation et comment nous on peut faire ceci.
Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un ici au siège qui va vous expliquer pourquoi la situation à l'Est ne va pas bien, ou est-ce que c'est vous, la personne qui se trouve sur le terrain, qui pourra mieux comprendre en quoi, par exemple, les Nations Unies ont failli à leur tâche à l'Est du pays?
Oui, moi je peux comprendre par rapport à mon niveau, quoi.
Par rapport à votre niveau, qu'est-ce que les Nations Unies auraient pu mieux faire à l'Est de la RDC et ne l'ont pas fait?
Je vais juste vous donner un petit exemple. Avant de venir ici, on nous a demandé des petits devoirs qu'on devait faire. Et moi, je me suis retrouvée à Chabunda, un des 8 territoires de ma province, un territoire vraiment un scandale géologique, plein de minerais. Il y a maintenant 10 petites pistes d'aérodrome parce qu'il faut faire des navettes avec les minerais et tout ça. Mais j'arrive là-bas, ce qui m'a d'abord choquée, j'ai dit, il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui s'intéressent à la cité, mais j'arrive là-bas, la pauvreté totale. Les gens ne sont même pas en mesure de manger. Les femmes n'ont même pas en mesure d'accéder aux champs parce qu'elles ont peur d'aller là-bas parce qu'il y a les FDLR qui sont venus en RDC après les génocides du Rwanda. Alors, avant de parler avec les gens, ils te posent la question aussi, c'est la question sécuritaire. Alors moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois faire avec ces gens ici pour leur montrer qu'en tout cas, je conjugue avec eux, bien que je ne suis pas en mesure de répondre à leurs problèmes, mais au moins, moi aussi, je serai parmi ceux-là qui chercheraient les réponses à leurs problèmes.
Monisco a toujours, ça veut dire que c'est ma maman qui va aller voir ma sœur.
J'arrive là-bas, ce sont les femmes violées. J'arrive là-bas, c'est la société civile qui se soulève. Oh non, ils sont contre les Nations Unies. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'on devait faire ensemble? On a fait un documentaire vidéo, là où la population est en train de démontrer que les forces des Nations Unies, les forces, les peacekeeping, Ils ne font plus rien. D'ailleurs, ils doivent partir. Ils sont prêts à menacer. Et ils ont formé leur groupe d'autodéfense pour maintenant affronter les FDLR parce qu'ils ont compris qu'il y avait une haute complicité entre les Nations Unies et les FDLR qui sont là-bas.
Le documentaire vidéo, vous l'avez ramené ici avec
Oui, avec vous.
Et vous allez le montrer à qui?
Bon, on a remis ça d'abord au coordinateur du programme.
Est-ce que vous l'avez remis au secrétaire général des Nations Unies?
Non, mais au moins en échangeant, j'essaie au moins de ramener les idées qui ressortent du documentaire pour échanger à propos de ça.
Mais vous savez qu'à un moment ou un autre, vous allez rencontrer M. Ban Ki-moon.
Oui.
Est-ce que vous allez jouer le jeu de la diplomatie ou est-ce que vous allez lui donner le documentaire dans la main?
Je ne vais pas lui donner le documentaire, peut-être que ce n'est pas permis ou peut-être qu'il n'aura pas le temps de suivre. Mais au moins, j'ai une idée générale de ces documentaires-là et ce serait ça la question peut-être que je pourrais lui poser.
La solution, c'est le secrétaire général ou la solution, c'est de distribuer ce CD au maximum de gens que vous rencontrez aux Nations Unies, notamment au département de maintien de la paix, pour les sensibiliser aux besoins des gens sur le terrain?
Malheureusement, ce n'est pas qu'ils ne sont pas informés. J'ai rencontré celui qui était chargé de la question sécuritaire en RDC. Il était censé être mieux informé que moi sur la situation. Mais lui aussi, il m'a dit que c'était difficile. C'était ça la réponse qu'il m'a donnée, vous voyez. Donc, à un moment donné, on a l'impression que la réponse ne doit pas venir d'une personne comme vous l'avez dit, mais la réponse doit venir des personnes clés, notamment la communauté internationale, les Nations Unies, pourquoi pas d'un côté, les gouvernements de l'autre côté et la population. Mais ce qui, moi, je crois, il reste encore le problème, c'est que peut-être soit les réponses ne sont pas stratégiques, les réponses sont très génériques. Chacun estime qu'il doit jouer jusqu'à un niveau et laisser un grand rôle à l'autre qui doit faire cela. Mais au moins, ce que j'ai tiré comme une leçon de par les gens avec qui je suis entrée en contact ici, des personnes clés qui connaîtraient mieux la situation de mon pays et qui étaient, à mon avis, habilitées à faire quelque chose, j'ai compris que la RDC n'est pas le seul intérêt des Nations Unies. Peut-être que nous sommes traités au même pied d'égalité avec d'autres pays, des membres des Nations Unies. Donc, nous sommes les seuls responsables en tant que des Congolais à jouer le grand rôle pour le changement de la situation. Ce qui est contraire à ce que les gens pensent dans mon pays. Maintenant, tout ce que peut-être nous, on peut demander, c'est que la réponse, quelle que soit minime des Nations Unies, soit stratégique. Ce n'est pas seulement la présence des Nations Unies qui est importante dans d'autres pays, c'est la présence de manière à aider la RDC à redevenir encore un État normal, peut-être à aider aussi les autorités à pouvoir agir sur des bonnes bases. Bien sûr qu'on va me dire que PNUD est en train de faire ceci, bien sûr que les réponses ne manquent pas, mais ce sont des réponses plus professionnelles, ce sont des réponses plus globales. Ce n'est pas qu'il y aura quelqu'un comme moi en tant que Congolais, je pouvais agir par rapport à mon pays, ce n'est pas comme ça que les Nations Unies sont en train d'agir. Mais j'espère qu'au fil des jours, les Nations Unies se sentiront quand même un peu interpellées à changer leur manière de faire, peut-être leur stratégie, de manière à pouvoir aider une fois pour toute la RDC à se relancer. Sinon, les gens vont continuer à confirmer les rumeurs qu'ils sont complices, ils viennent juste pour voler les minerais. Vous voyez, c'est ça ce qui circule maintenant au niveau de la population. Et ma crainte, c'est que ça crée maintenant des tensions et peut-être demain ou après-demain, les militaires des Nations Unies seront maintenant maltraités chez nous, comme on commence maintenant à les voir.
Parler de stratégie, comment vous voyez les étapes futures de votre vie? Vous voyez toujours militante sur le terrain ou
ouais.
Vous voyez d'ici une dizaine d'années fonctionnaire international des Nations Unies ou de la Banque mondiale pour participer aux stratégies?
N'importe où je vais me trouver, je sais que ça serait seulement stratégique. Même aujourd'hui, je sais que mon poste est stratégique, malgré que ça n'a pas un grand impact. Ça peut avoir un grand impact par rapport à ce que j'ai fait aux femmes qui sont à la base. Mais j'aimerais plus évoluer de manière à avoir un poste stratégique, de manière à influencer même les décisions au niveau de mon État, comme vous avez dit. Et j'espère que ça va se passer ainsi. Mais j'ai pris comme décision de ma vie à travailler toujours de manière à bénéficier de mon travail, à faire bénéficier de d'autres personnes. Il n'y a pas que mon travail pour manger, pour m'habiller, pour dormir, mais je dois travailler pour moi et en même temps pour les autres.
L'incroyable combat d'une jeune Congolaise, Pascaline Zamuta, était l'invitée d'Escale cette semaine. Merci à Frédéric Chouinière, à la réalisation et à vous tous de votre fidélité au magazine hebdomadaire de la radio des Nations Unies.